m'appelle Sarah Oumeri, étudiante à Sciences Po Aix. J'ai effectué un mémoire sur l'islam et l'homosexualité en France. Donc essayer de problématiser et de voir quelles sont les représentations et les regards qui peuvent donc, on va dire, se croiser quand on réfléchit donc l'islam en tant que culture, en tant que foi, en tant que religion, en tant qu'identité, mais également donc l'homosexualité qui recoupe, on va dire, plusieurs pans de l'identité, de genre, de sexe, et des pratiques.
L'islam et l'homosexualité sont deux thématiques qui apparaissent comme antagonistes et conflictuelles. Est-ce que ça a été vérifié dans tes recherches ?
Effectivement, c'est-à-dire qu'on peut parler de deux mondes, on va dire, deux aspects, voire oxymories, c'est-à-dire une antinomie quand on pense à l'islam et l'homosexualité, notamment l'homosexualité en islam, en terre d'islam, étant donné que la plupart des législations des pays arabes, arabo-musulmans, condamnent ces pratiques. À côté de cela, on va dire qu'il est difficile pour les grands monothéismes de concilier foi, christianisme, judaïsme et cette pratique homosexuelle.
Est-ce que la position de l'islam au niveau de l'homosexualité est différente des autres grands monothéismes comme le christianisme et le judaïsme ?
On va dire qu'elle s'inscrit dans une continuité, c'est-à-dire la Bible, avec les références à Sodome et Gomorre. Dans les textes musulmans, il s'agit du peuple de Lot. Et on va dire que c'est un peu le leitmotiv, la parabole qui structure en fait la condamnation religieuse de l'homosexualité dans les grands monothéistes. Et c'est en cela que l'islam se fait quelque part le continuateur, malgré une approche propre. Et effectivement, l'homosexualité a toujours existé en islam, en terre d'islam, chez les musulmans, mais relevée d'un interdit, mais surtout de la sphère de l'intime, c'est-à-dire une privatisation et non pas une publicité.
Donc ça veut dire qu'elle était pratiquée, mais elle était taboue.
Effectivement, elle était taboue, même si, on va dire, par exemple, l'épisode de Solane le Magnifique, avec donc son esclave grec. Tout le monde le savait. Abu Dawas également, qui chantait donc des odes à l'amour à la fois hétérosexuel et homosexuel. Donc il s'agissait en fait de toujours essayer de jouer avec cette frontière du tabou, cette frontière de la transgression, malgré le fait que la morale sexuelle en islam interdit donc certaines choses parce qu'elle s'inscrit dans l'idée de préserver l'ordre public. Et l'homosexualité, même s'il n'y a pas eu de législation, on n'a pas légiféré dessus comme pour l'adultère, il reste une condamnation symbolique, mais qui est complètement consubstantielle aussi aux cultures arabes et aux cultures maghrébines, qui voient d'un très mauvais œil notamment l'homosexualité masculine.
Justement, quel est le statut des homosexuels dans les pays arabes aujourd'hui qui ne reconnaissent pas du tout l'existence de personnes homosexuelles ?
On peut dire que à l'heure actuelle, le statut est celui d'une condamnation. Alors, certains pays pratiquent la peine de mort, d'autres des condamnations. Et c'est cela qui pousse notamment plusieurs personnes à s'exiler. Je pense notamment à donc une association en France pour les droits des homosexuels, enfin lesbiennes, gays et transsexuels ou bisexuels, qui s'occupe donc de pouvoir donner, on va dire, un droit de cité ici en France. Je pense à des lesbiennes par exemple de Tunisie ou d'Égypte. Le magazine Têtu fait très souvent donc référence à des articles en montrant donc, enfin, tous les mécanismes, donc l'OFPRA par exemple, l'organisme pour les réfugiés et ceux qui demandent le droit d'asile, mais également les associations qui font force de lobbying pour permettre à ces personnes de vivre ici. Donc quelque part, elles fuient une législation donc répressive en ce qui concerne l'homosexualité, et surtout c'est la possibilité de vivre en fait cette double identité. À la fois être musulman, mais également être donc d'une autre sexualité ou orientation sexuelle que hétérosexuelle ici en Europe.
Donc islam et homosexualité sont conciliables ?
Effectivement, islam et homosexualité sont conciliables. C'est tout le travail donc d'une jeune association qui s'appelle Homosexuels Musulmans de France. J'ai eu l'occasion, lors de mes recherches, de rencontrer donc son président et les membres de cette association, la plupart sont d'origine maghrébine, voire ont la nationalité marocaine ou algérienne. Et leur travail est vraiment celui d'une conciliation identitaire, voire un rapport confessionnel. C'est-à-dire qu'ils revendiquent le fait qu'ils puissent donc pratiquer leur foi, pratiquer leur religion, tout en étant donc d'une autre orientation sexuelle. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, des salles de prière ou des pèlerinages qui s'organisent.
Au sein de l'association.
Au sein de l'association, en relation aussi avec les autres associations LGBT confessionnelles, que sont le Beit HaVerim, mais également David et Jonathan. Et je crois qu'ils projettent pour l'année prochaine un voyage en Terre Sainte. Également, donc, ils s'inscrivent dans, on va dire, une visée plus internationale en participant à donc des mouvements associatifs, les LGBT Queer Muslims, dont le précurseur est l'imam Mohsin Hendricks, qui est donc un imam gay d'Afrique du Sud, qui a déclaré cette possibilité, en fait, même en tant que personnel religieux, puisque la figure de l'imam est très importante en islam.
I'm trained as an imam, prior to that, I was also a fashion designer. I think it comes with the territory. Being gay, then you also have the talent of creating stuff. But I think the reason why I wanted to become an imam, well, it wasn't really to become an imam, but to have the qualification so that I can engage with Islam and with the Quran myself, to really find out what is it that God really thinks about homosexuals. The very questions queer Muslims come to us with is they want to know, what does God say about my sexuality? Am I going to go to heaven? Am I going to go to hell? Only God can judge me, and I don't think God will judge me based on something that he has created inside of me. I think he perhaps will judge me on my choices that I make, but not on the way I'm being. So I'm completely comfortable with being gay and Muslim.
Il a été très courageux, effectivement, d'avoir pu s'exprimer en cela. Je pense que la communauté dans son ensemble, donc sud-africaine, voire LGBT, donc a salué cet acte de courage. En ce qui concerne donc les autres domaines, on va dire par exemple le personnel religieux en soi, il ne le considère pas comme un imam. Il est plutôt considéré, je pense, comme un dissident, et il a pu être aussi menacé. Mais on va dire que finalement, ça s'est bien passé. Quelque part. Donc je pense que le travail aussi de cette association, c'est de briser les tabous et de montrer à tout le monde que c'est possible. Donc montrer d'une part à la communauté dans son ensemble, c'est-à-dire au niveau national, mais également envers les musulmans. C'est pour ça qu'il y a tout un travail donc de se tourner vers les imams de France, puisqu'il s'agit pour eux de construire un islam en France compatible avec, on va dire, les modes culturels, les mœurs, mais également les changements sociétaux ici même. On peut penser par exemple au mariage homosexuel, qui est peut-être en passe d'être adopté en France, et aussi se tourner vers la communauté LGBT, puisqu'il faut savoir que se développe notamment en Europe ce qu'on appelle l'islamophobie, et ceci peut porter également préjudice aux homosexuels musulmans, tout simplement.
Et quelle est la position des imams en France sur l'homosexualité? Elle reste toujours très conservatrice?
On va dire que dans l'ensemble, les évolutions restent encore très, très timides. Mais c'est, enfin, ce qui est intéressant en fait concernant donc les imams, il n'y a pas de clergé en fait en islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule autorité, une seule voix. Ce qui fait que les imams, notamment quand ils publicisent leur parole, on peut penser par exemple à l'imam Ourou ou au recteur de la mosquée de Paris, il y a une écoute, il y a une réception. Et c'est vrai que l'imam, donc dernièrement Tarek Oubrou, a montré donc le fait qu'il ne fallait pas pratiquer ou expérimenter l'homophobie. C'est-à-dire que l'islam n'était pas homophobe, malgré le fait qu'il reste quand même une certaine condamnation symbolique. Je pense notamment que les changements seraient de plus en plus probants s'il était possible d'intégrer au sein donc d'une mosquée les communautés donc LGBT. comme c'est le cas par exemple au sein de certaines synagogues ou églises dans les pays anglo-saxons. Cela reste très minoritaire et c'est pour ça qu'on peut parler d'inclusion, c'est-à-dire des structures religieuses inclusives qui incluraient les personnes malgré leurs diverses identités à la fois ethniques, religieuses et sexuelles.
Mais est-ce que cela signe pas un double communautarisme à la fois dans une communauté religieuse et puis dans une communauté sexuelle? Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de penser cette inclusion à la fois sur son orientation religieuse et sexuelle? Est-ce que ça réduit pas les gens à un double communautarisme finalement?
Non, dans la mesure où, en fait, quand je parle d'inclusion, donc c'est un terme britannique, anglo-saxon, qui signifie tout simplement qu'il faille accueillir tout le monde. Il ne s'agit pas de communautarisme, il s'agit juste de dire nous sommes musulmans, point. Au-delà de nos disparités, en fait. Et c'est pour ça que le travail aussi de cette association est celui de combattre le dit communautarisme, à la fois sexuel et religieux. Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant avec ces associations LGBT confessionnelles, c'est qu'elles restent transversales et restent vraiment dans cette idée d'universalisme qui était celui aussi du combat des LGBT déjà auparavant. Celui donc de dire, voilà, nous sommes des êtres non pas à part entière, mais comme les autres.
Quelle est la place de l'homosexualité féminine dans l'islam? Est-ce qu'elle jouit d'une place particulière et quelle est-elle?
Cette question est intéressante dans la mesure où elle est donc ambivalente. C'est-à-dire que d'une part, l'homosexualité féminine, c'est comme si tout simplement elle n'existait pas, étant donné qu'il y a une focalisation sur les rapports qu'on appelle insertifs-réceptifs, c'est-à-dire les pratiques homosexuelles masculines qui, elles, donc, ont été condamnées symboliquement. On peut dire également que, justement, puisqu'il n'y a pas d'intérêt quelque part, il n'y a pas eu de législation ou de fatwa très précise sur l'homosexualité féminine, elle reste dans l'invisible et c'est en cela que, par exemple, au sein de certaines communautés, au sein de certaines familles, dans certains pays, l'homosexualité féminine ne pose véritablement pas de problème. Mais justement, en fait, il faut intégrer aussi cette dimension parce que l'homosexualité féminine a aussi donc on va dire droit de cité en islam. Donc on va dire que bon, c'est moins virulent, mais c'est tout aussi important et j'ai été quand même assez surprise, mais bon, c'était aussi normal au cours de mes recherches de voir que il n'y a pas grand intérêt pour cela. J'aurais voulu aussi interviewer une lesbienne musulmane pour voir un petit peu son point de vue, comment elle vit cette double identité, cette conciliation, et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer, et je sais qu'elles existent. Ce qui serait intéressant, c'est de travailler, puisqu'on parle de islam en France ou de islam de France, je pense qu'il serait intéressant en fait de sensibiliser au niveau local, c'est-à-dire d'une part les imams, et donc les imams, les grands imams, mais également ceux qui officient donc au sein de leur quartier. Et aussi, je pense, pour des personnes donc qui voient donc leur islamité comme identitaire, c'est-à-dire je suis musulman comme je pourrais être breton, comme je pourrais être algérien, alors qu'ils ne le sont peut-être pas en soi, c'est-à-dire de manière symbolique, mais ils ne pratiquent pas forcément la religion, et pourtant ils véhiculent encore et encore donc cette homophobie intériorisée en disant c'est mal parce que Dieu. Et je pense qu'il s'agit ici d'ignorance quelque part. Oui, lutter contre l'homophobie et surtout cette tolérance vis-à-vis des personnes donc autres pourrait se faire à l'échelle donc plus locale. Et c'est pour ça aussi que les communautés, les associations LGBT se doivent aussi de descendre, notamment en cité, en banlieue ou encore à l'école, tout simplement. Voilà, mais les choses se font tout doucement, mais elles se font, et je pense que c'est bien, surtout dans un contexte qui est celui de la France ou de l'Europe, puisque justement des personnes fuient leur pays pour venir ici. Donc, annihiler les contradictions qu'il y a en France serait oui, une bonne chose selon moi.